Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Quatre lettres qui, pour beaucoup d'entre vous, n'ont pas encore de sens, mais quatre lettres qui, pour celles et ceux qui en souffrent, sont lourdes de conséquences au quotidien. Ce sont les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Derrière ces initiales, on trouve la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique qui se distinguent par des segments digestifs atteints, par des traitements spécifiques, des pathologies dont on parle peu. Peut-être parce qu'elles touchent à l'intime, la digestion, la zone du périnée et entraînent, lorsque les patients sont en poussée, des troubles, certains symptômes qui restent tabous, des diarrhées, des envies impérieuses, des pertes de sang. Des maladies qui, au cours des dernières décennies, sont malgré tout de plus en plus connues pour de bonnes et de mauvaises raisons. Les bonnes, c'est que les traitements se multiplient, les patients osent en parler et que la recherche est très active. Et la mauvaise raison, c'est que Crohn et la RCH touchent de plus en plus de personnes sur la planète, des patients plus jeunes, des enfants. Et si longtemps on a considéré ces maladies comme des pathologies du monde développé, eh bien les MICI touchent de plus en plus des populations des pays en voie d'industrialisation. Un phénomène parmi d'autres qui, jusqu'à présent, n'a toujours pas trouvé d'explication. Et la journée internationale des MICI, c'était le 19 mai. On en parle avec nos invités en studio. Corinne DeVos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes patiente experte, vice-présidente de l'AFA, l'Association nationale des malades et proches, pour vaincre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Avec nous, professeur Mathieu Allais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en hépato-gastro-entérologie, gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et tout à l'heure, nous retrouverons en ligne du Cameroun le professeur Christian Dzeton, gastro-entérologue à l'hôpital général de Douala, président de la Société camerounaise de gastro-entérologie. En fin d'émission, nous retrouvons la chronique nutrition avec Stéphane Besançon, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Et puis bien sûr, notre numéro pour témoigner, pour poser toutes vos questions, c'est le 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Mathieu Allais, on compte en France plus de 200 000 malades, peut-être vous me direz le chiffre exact tout à l'heure, atteints de ces MICI, maladies inflammatoires de l'intestin, Crohn, rectocolite hémorragique, que certains appellent aussi RCH. Alors pourquoi est-ce qu'on connaît dans le grand public beaucoup moins ces maladies qu'une autre maladie, comme par exemple la mucoviscidose qui touche 7 000 malades, ou même la maladie de Parkinson?
Ah, donc les raisons pour lesquelles on parle moins des MICI. Je pense que d'abord, c'est des maladies donc, qui n'augmentent pas la mortalité. Donc, par rapport, elles sont considérées peut-être comme moins sévères que d'autres maladies, puisque l'espérance de vie n'est pas diminuée. Cependant, elles ont un retentissement très fort sur la qualité de vie, surtout lorsqu'elles ne sont pas contrôlées. Les symptômes, comme vous l'avez dit en introduction, sont des symptômes parfois difficiles à partager avec son entourage, avec ses proches, avec ses collègues, avec ses amis. Et donc pour ces raisons-là, c'est des maladies dont on a longtemps peu parlé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que dans la société, on a une prise de conscience. Peut-être que notre société évolue d'une façon où il devient possible d'en parler. Et c'est important de trouver les mots pour le faire, puisque c'est des maladies qui ont un retentissement important pour ceux qui en souffrent.
Alors justement, une méconnaissance de la part du grand public. Est-ce que d'après vous, professeur Mathieu Allais, ça peut expliquer que pour un certain nombre de patients, eh bien, le délai est parfois long avant que le diagnostic ne soit posé, même parce que certains médecins généralistes ne font pas forcément le lien entre certaines manifestations et la réalité de la maladie?
C'est vrai, c'est de moins en moins fréquent. On observait ça beaucoup il y a 20 ans, maintenant c'est quand même moins fréquent. Ça dépend des manifestations cliniques. Donc il y a des formes de maladies inflammatoires de l'intestin qui sont plus ou moins difficiles à diagnostiquer. Il faut dire que quand un médecin suspecte le diagnostic est facile. Donc le problème est plutôt de savoir devant quels symptômes il faut l'évoquer. Une des caractéristiques, c'est que c'est des symptômes chroniques. Donc le fait d'avoir une diarrhée avec du sang, des douleurs abdominales est une expérience du sang pas forcément, mais on a tous eu l'expérience de symptômes digestifs qui durent quelques jours. Et ça, c'est des symptômes qui sont des problèmes qui sont d'origine infectieuse. notre organisme arrive, dans la grande majorité des cas, à contrôler une infection en moins d'une semaine. Donc dans les maladies inflammatoires de l'intestin, la grande particularité, c'est que ces manifestations vont persister. Et il y a une grande hétérogénéité parmi les patients. Il y a des formes différentes dans leur présentation qui sont liées au fait que la maladie peut toucher différents segments, en particulier la maladie de Crohn. Et que donc
Et pour dire différents segments, il faut bien comprendre. Hein, ça peut toucher de la bouche à l'anus, toutes les parties du tube digestif. Donc, il peut y avoir des manifestations différentes, des douleurs différentes en fonction des segments touchés.
Oui, alors il y a parfois une confusion. Hein. On dit la maladie de Crohn peut toucher ou touche tous les segments du tube digestif. En fait, non, chez un même patient, ça touche des zones limitées. Mais donc, les zones vont être différentes d'un patient à l'autre. Alors, il y a quand même des sites privilégiés. Les endroits les plus atteints sont la fin de l'intestin grêle et le côlon. Et puis parfois la région de l'anus. Et d'ailleurs, on en reparlera un petit peu, mais c'est des zones dans lesquelles il y a un conflit, hein, c'est ce qu'on comprend de ces maladies, avec le microbiote, et c'est les zones dans lesquelles les concentrations du microbiote sont les plus élevées, vers la fin du tube digestif.
Et donc, il y a une dimension aussi de cicatrisation, parce que quand on est justement dans des zones humides, avec une présence comme ça de bactéries, il doit forcément y avoir un impact sur la cicatrisation quand on est en période de poussée inflammatoire.
Vous faites allusion au fait des zones géographiques ou
absolument.
Non, je ne crois pas que ça ait franchement un impact. L'intestin est un milieu assez incroyable quand on l'étudie. C'est un domaine qui a été assez peu étudié en science, mais simplement depuis une vingtaine d'années, parce qu'on avait un peu de mal à l'aborder, notamment la relation avec les microbes. Et dans l'intestin, il y a un nombre de... si vous voulez, on a un système de défense qui est présent dans tout l'organisme, qui est particulièrement présent dans le tube digestif, puisque c'est une zone d'échange, le tube digestif. On a les aliments, on absorbe les aliments, et puis notre intestin contient des milliards de microbes avec lesquels on vit en symbiose, c'est-à-dire qu'ils nous apportent beaucoup. Et finalement, les maladies inflammatoires de l'intestin sont des maladies où il y a un déséquilibre, il y a un dérèglement. Et on finit par avoir un conflit entre le système de défense et les microbes présents dans l'intestin. Donc un dérèglement. Et effectivement, dans les maladies inflammatoires de l'intestin, en recherche, on met en évidence parfois des défauts dans la cicatrisation, dans le contrôle de l'inflammation. C'est parfois des mécanismes qu'on met en évidence. Donc oui, mais on arrive avec les médicaments, avec donc les médicaments qu'on utilise, à induire cette cicatrisation. Et ce qui est très important quand on soigne les maladies inflammatoires, c'est justement de contrôler cette inflammation intestinale, au-delà des symptômes même. Donc de bien contrôler la maladie.
Alors tout à l'heure, on parlait justement du temps parfois nécessaire avant que le diagnostic soit posé. Corinne DeVos, beaucoup de temps, des années pour vous avant de mettre un nom sur une souffrance. C'est bien ce que vous avez connu.
Oui, tout à fait. Donc moi, mes premiers symptômes sont apparus alors que j'avais 7 ans, de façon très brutale, par des diarrhées et des douleurs abdominales, mal au ventre quand on a 7 ans. Et finalement, le diagnostic n'a été posé que 30 ans plus tard, à l'occasion d'une énième hospitalisation, plutôt pour des douleurs articulaires. Et finalement, le diagnostic a été posé.
Et entre-temps, entre ces 7 ans et vous étiez déjà une femme, plus de 30 ans, vous aviez des poussées de façon régulière ?
Alors, je reviens exactement sur ce que disait le professeur Allais, c'est-à-dire que il y avait des moments où ça n'allait pas du tout et des moments où ça allait bien. Quand ça n'allait pas du tout, je prenais des choses pour ralentir le transit. Moi, j'avais principalement des diarrhées qui pouvaient et après qui s'enchaînaient avec des vomissements, des douleurs abdominales et beaucoup de douleurs ailleurs. Donc peut-être un tableau pas très clair en fait. J'avais des diarrhées comme on en a quand on parle de gastro. Et donc du coup, on me donnait des choses pour ralentir le transit. Bien sûr, j'avais un régime qui m'avait été prescrit dès l'âge de 7 ans, qui était un régime qu'on appellerait aujourd'hui un régime sans résidus strict. Et quand j'avais trop mal partout, on me mettait sous cortisone. Voilà. Donc en fait, ça calmait.
Et les médecins mettaient un nom sur vos douleurs, Corinne DeVos. Qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Vous souffriez alors de gastro permanente ? Je sais pas.
Alors au départ, je me remets encore. J'avais 7 ans. J'ai été hospitalisée la première fois à l'âge de 7 ans dans un service hospitalier. Et ce qu'on m'a expliqué, ce que j'avais très bien intégré, c'est que comme j'avais eu beaucoup de problèmes, on va dire d'infections ORL, et pris énormément d'antibiotiques, et en même temps que j'avais été désensibilisée pour une allergie à la poussière et aux plumes, on m'avait dit que ça avait abîmé ma flore intestinale. C'est ce que j'ai retenu de l'époque, et que si je mangeais d'une certaine façon, etc., ça allait peut-être se reconstituer par soi-même. Bon, la suite a été un peu différente, mais c'est que j'ai quand même eu une explication à défaut du bon diagnostic peut-être. J'ai eu une explication et ça a été important pour moi, même en tant qu'enfant, certainement pour mes parents, mais là je me rappelle à l'époque d'avoir quelque chose à dire.
Alors, professeur Mathieu Allais, deux maladies, hein, les MICI, Crohn, rectocolite hémorragique, qu'est-ce qui les rapproche, qu'est-ce qui les distingue ?
Elles sont caractérisées par une inflammation chronique, hein, c'est ce que l'on disait, c'est donc ce dérèglement du système immunitaire en relation avec les microbes, des symptômes chroniques qui persistent. Dans la rectocolite hémorragique, la rectocolite touche toujours, quand elle est présente, le rectum et remonte plus ou moins haut sur le côlon, et donc les symptômes vont être des émissions de sang, l'impériosité, c'est-à-dire le besoin d'aller à la selle de façon urgente, les douleurs abdominales, donc des émissions anormales. Et puis, ces émissions peuvent devenir une diarrhée lorsque l'inflammation est étendue. Et dans la maladie de Crohn, on peut avoir les mêmes symptômes quand la maladie siège sur le côlon ou le rectum, mais elle peut toucher aussi l'intestin grêle. Et à ce moment-là, on aura finalement assez peu de diarrhée, mais plutôt des douleurs abdominales déclenchées par les repas. Alors, il faut rajouter il faut faire une précision, je pense, à ce stade. C'est que tous les symptômes qu'on vient d'énumérer ne sont pas spécifiques des maladies inflammatoires de l'intestin. Il y a un grand nombre de maladies ou de désordres qui peuvent conduire à ces symptômes. Donc, c'est finalement la description des symptômes de façon précise au médecin qui permet de se rendre compte qu'il y a des caractéristiques qui font évoquer une maladie inflammatoire.
Et précisément, un certain nombre d'examens, professeur Mathieu Allais, ou d'indicateurs biologiques qui permettent de poser le diagnostic plus certainement.
Oui. Alors, il y a d'abord le côté clinique. Donc, un médecin va recueillir, par exemple, l'ancienneté des symptômes. Si quelqu'un présente des symptômes depuis deux jours, on n'évoque pas ce diagnostic, hein, bien sûr. On va l'évoquer si les symptômes, par exemple une diarrhée sanglante qui durerait plus d'une semaine, en dehors de certaines régions du monde, par exemple, il y a des infections qui peuvent être responsables de ces symptômes, comme les amibes, par exemple. Donc, mais on va être devant la persistance des symptômes, et à ce moment-là, comme je le disais, c'est assez facile de faire le diagnostic. Des examens biologiques simples peuvent montrer des anomalies sur la prise de sang, et puis on a recours assez facilement aux endoscopies. Donc dans la rectocolite, il suffit de faire une rectoscopie pour objectiver l'inflammation. Et dans la maladie de Crohn, ça dépend de l'endroit où on suspecte la maladie. Souvent, la coloscopie qui va jusqu'à l'iléon, la fin de l'intestin grêle, permet de faire le diagnostic. Et parfois, on a besoin aussi d'examens radiologiques pour montrer ces anomalies que l'on observe à l'œil nu. Hein, c'est ça que la caractéristique des maladies inflammatoires d'intestin, c'est qu'elles sont macroscopiques. C'est pas des maladies qu'on diagnostique au microscope, même si le microscope va nous apporter une confirmation. Finalement, on voit les anomalies quand on fait l'endoscopie, quand on fait une radio.
Alors, il y a un certain nombre de symptômes. On parlera tout à l'heure des traitements qui permettent de contrôler. Mais quand les poussées durent longtemps ou quand le diagnostic est émis de façon tardive, on peut arriver à un certain nombre de complications, professeur Allais.
Oui, alors, cette inflammation, elle peut partir en profondeur, notamment dans la maladie de Crohn, c'est-à-dire ce qui caractérise la lésion élémentaire des maladies inflammatoires de l'intestin, c'est finalement les ulcérations. Beaucoup d'entre nous ont eu des aphtes déjà dans la bouche. Ben, ça ressemble, c'est un peu ça, c'est un peu comme des aphtes.
Et c'est ce qui se voit justement aussi quand il y a les endoscopies, etc.
C'est ce
que l'on voit sur, oui, justement, on va dire, je ne sais pas si j'emploie le terme correct, mais le tissu des intestins.
C'est ça, la surface, ce qu'on appelle l'épithélium, ou la muqueuse plutôt, est abîmée. Et la lésion élémentaire, c'est une ulcération.
Comme des petites taches blanches, un petit peu, en surface.
Exactement. Et parfois, ces ulcérations vont partir en profondeur, en particulier dans la maladie de Crohn. Vous donnez des ulcérations qui vont être un peu plus creusantes. Et ce processus chronique d'inflammation va conduire à une détérioration de la paroi, à des complications destructives. On peut observer des fistules qui démarrent à partir de l'intestin, qui créent un trajet qui peut se manifester par un abcès. Ou une autre complication est le fait que l'intestin est un tube. Et quand cette inflammation est circonférentielle, ça peut conduire à une réduction du calibre, à un rétrécissement qu'on appelle une sténose. Et là, à ce moment-là, les aliments ont du mal à passer dans le tube digestif. Le contenu a du mal à passer, ça se manifeste par des douleurs, des vomissements, comme ce que disait Corinne DeVos tout à l'heure. Donc il y a des manifestations occlusives. Et parfois, dans la maladie de Crohn, on a donc recours à la chirurgie, qui va être économe. On va retirer le moins possible d'intestin, mais la partie qui est détruite. Et les traitements médicaux, finalement, quand ils sont pris assez tôt, visent à bloquer ce processus. Dans la rectocolite hémorragique, on n'a pas exactement la même situation, mais on peut avoir des poussées sévères, et des manifestations, des colites très sévères qui peuvent parfois nécessiter des traitements puissants, une hospitalisation et puis dans certains cas une chirurgie.
Est-ce qu'il y a un réel risque hémorragique, puisqu'il y a ce mot hémorragie dans le nom de la maladie.
Oui, c'est surtout, l'hémorragie se caractérise plutôt par une anémie, mais qui va être progressive, par perte de fer. On a assez peu, mais on peut l'observer quand même, des anémies aiguës. Un saignement massif peut donner une anémie et donner une hémorragie importante, mais ce n'est pas le plus fréquent, mais c'est possible.
Avec une réelle problématique, professeur Mathieu Allais, peut-être surtout, encore plus chez les enfants, une problématique de dénutrition, puisque quand les aliments ne sont pas assimilés, bah c'est tout simplement très difficile de grandir.
Absolument, et donc le retard de croissance, ou le décroche, en fait un pédiatre examine un enfant chez lequel il suspecte une maladie inflammatoire de l'intestin, souvent quand on fait la courbe de poids, on se rend compte que le poids ou la courbe c'est un peu cassé, hein, c'est le terme utilisé par les pédiatres, de façon parfois plusieurs mois, plusieurs années avant, alors qu'il y avait encore assez peu de symptômes digestifs, ou en tout cas l'enfant n'en faisait pas part, mais simplement une perte d'appétit. Et donc parfois il y a des errances diagnostiques, peut-être c'est ce que tu racontes tout à l'heure, enfin ce que tu racontais Corinne, c'est des tableaux qui seront un peu difficiles, avec une anorexie qui va être au premier plan, un retard de croissance, et donc ça c'est un diagnostic qui doit être évoqué. Mais encore une fois, c'est pas les formes les plus fréquentes.
Et quand on utilise le terme d'anorexie, on n'est pas du tout dans une problématique d'anorexie mentale, là on est justement dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est on est empêché de manger parce que l'aliment est dangereux, tout
anorexie,
simplement.
Anorexie, ça veut dire perte d'appétit. On a tous fait l'expérience d'une perte d'appétit. Quand on a une grippe, on a une perte d'appétit. Et ça montre bien que les mécanismes qui conduisent à cette perte d'appétit sont assez complexes. C'est l'inflammation, probablement, en tout cas, ce que produit l'organisme qui va conduire à cette perte d'appétit.
Corinne Devaux, j'ai retenu tout à l'heure dans votre témoignage, vous disiez que vous aviez consulté pour des douleurs articulaires. Et c'est justement parce que dans votre cas précis, eh bien, la maladie inflammatoire a une manifestation qu'on appelle extra-digestive. Simplement, vous n'avez pas simplement mal au ventre, vous avez aussi d'autres douleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces manifestations extra-digestives ?
Les douleurs articulaires, en ce qui me concerne, sont apparues assez tôt. Un petit peu avant l'adolescence, et d'ailleurs avait été plutôt analysé comme étant des douleurs liées à la croissance que liées au rhumatisme qui a été plus tard diagnostiqué en même temps que la maladie de Crohn. Donc c'était des douleurs qui m'empêchaient de me déplacer, m'obligeaient à prendre des béquilles régulièrement, mais là aussi j'allais dire comme la diarrhée, c'est-à-dire par période, et puis après un petit peu de cortisone et ça allait mieux. Et donc du coup, ça s'est passé comme ça. Ça a évolué. Chacune des pathologies, j'ai l'impression, a évolué pour son propre compte, jusqu'à une poussée vraiment très sévère, qui a été analysée comme une poussée. Et là, les diagnostics ont pu être posés pour les deux maladies en même temps.
Et pour l'autre maladie, ce diagnostic, c'était
la spondylarthrite ankylosante.
Professeur Mathieu Allais, manifestation au niveau articulaire, ça veut dire qu'on a aussi une inflammation au niveau des articulations ?
Oui. Donc cette inflammation qui siège dans le tube digestif peut s'exporter dans d'autres organes, donc les articulations, c'est la situation la plus fréquente, la peau également, il peut y avoir des érythèmes noueux, des manifestations de ce type, les yeux peuvent avoir des uvéites, et puis d'autres organes peuvent être atteints encore de façon moins fréquente. Donc tout se passe comme si cette inflammation qui démarre dans l'intestin s'exporte dans un autre organe. On commence à comprendre un peu mieux cette physiopathologie, hein, c'est un terme un peu... ces mécanismes, et en fait en médecine il y a un certain nombre de maladies qui sont inflammatoires, médiées par le système immunitaire, les rhumatismes, les maladies de la peau comme le psoriasis, les maladies inflammatoires de l'intestin, également même la sclérose en plaques, enfin d'autres maladies sont des maladies inflammatoires médiées par le système immunitaire.
On les classe dans ces maladies auto-immunes.
C'est pas exactement auto-immune.
C'est pas auto-immune, enfin, mais l'immunité est en jeu.
Ouais, l'immunité est en jeu. Alors il y a des mécanismes d'auto-immunité, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un dérèglement du système immunitaire vis-à-vis du microbiote. Alors on peut dire que le microbiote fait partie du soi, ce qui est probable d'ailleurs, ce qui est un peu vrai, puisqu'on vit en symbiose avec les microbes. Mais disons que le terme d'auto-immunité ne convient pas exactement à ces maladies, à mon sens.
Corinne Devaux, comment la maladie a changé votre quotidien ? On va dire, qu'est-ce qui a eu le plus de retentissement ? Est-ce que ce sont les manifestations, on va dire, intestinales digestives, ou plutôt ce syndrome articulaire ?
Ça va un petit peu dépendre des périodes de ma vie. Je dirais que ce que j'ai extrêmement mal vécu, c'est tout ce qui est diarrhée irrépressible, qui peut aller jusqu'à 20 selles par jour, et qui là, à un moment, ont mis fin et à ma vie professionnelle et à ma vie sociale, puisque j'étais dans l'impossibilité de sortir de chez moi.
Avec une terreur permanente que ça arrive, une honte.
Ça, c'est très, très difficile, et puis aussi une image de soi très dégradée. Et puis on parle, c'est très compliqué de parler, de, enfin, d'avoir l'impression d'être sale ou d'avoir des odeurs et de pas maîtriser ses selles. Il y a quelque chose de très régressif et qu'on n'évoque pas très facilement. Après, pour les douleurs, il y a eu des périodes où ça a été les douleurs abdominales, mais un petit peu moins en ce qui me concerne. Encore une fois, il faut revenir sur le fait que chaque cas est particulier. Et après, j'ai eu des moments de fatigue, enfin même largement dépassés, je dirais d'épuisement, avec des pertes de poids dans des temps très courts. Hein. Par exemple, 10 kilos sur une période de 12 jours, ce qui me, entre deux hospitalisations, c'est pour ça que je me rappelle du timing. Après, il y a eu la nourriture par sonde, qui est compliquée aussi, d'avoir une sonde et de sortir dans la rue de façon comme ça... comme si c'était tout à fait normal. Voilà, il y a eu des moments, je dirais, vraiment d'isolement. C'est peut-être ça qui a été le plus compliqué. Et la reprise de poids, enfin d'énergie. Donc, lutter contre la fatigue. Moi, pour ma part, je suis descendue en dessous des 40 kilos jusqu'à 35 kilos. Et donc, du coup, ça a été très compliqué dans ces moments-là et pendant un temps assez long de refaire surface.
Et quel traitement prenez-vous aujourd'hui, Corinne DeVos ?
Alors aujourd'hui, je suis sous biothérapie et en même temps combothérapie. Et c'est-à-dire avec un immunosuppresseur. Et moi, le message que j'ai vraiment envie de passer, c'est que ça a quand même changé ma vie. Alors bien sûr, vous voyez...
Parce que là, vous êtes en studio. Pour les gens qui n'ont pas voilà. les images, vous ne faites plus du tout 35 kilos. Vous,
non.
vous avez des joues, des épaules bien
tout
en chair.
Fait.
Tout va bien. Et vraiment, ça veut dire que vous êtes revenu de cette période de sous-poids absolument épouvantable.
Alors tout va bien, c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais néanmoins, j'ai retrouvé... de l'énergie, du dynamisme. Après, il est un petit peu aléatoire parce que le symptôme de la fatigue, et même moi qui le vis, j'ai eu du mal à l'entendre, persiste même au moment des rémissions. Peut-être le professeur Allais pourra nous éclairer. Et c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Et il reste encore un petit problème de selle impérieuse. En tous les cas, un problème suffisamment important pour que j'ai un petit peu la phobie permanente des transports, des déplacements. Voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas... Tout va pas bien, mais par contre, j'ai retrouvé une qualité de vie qui, pour moi... Et aujourd'hui, tout à fait acceptable.
Professeur Mathieu Allais, on l'a compris, ces maladies ne se soignent pas, elles se traitent. Et les options thérapeutiques se sont vraiment élargies au cours des 10 ou 15 dernières années.
Oui, alors si on les soigne, on les traite, on les soigne.
Ce qu'on
ne sait pas faire,
pas.
C'est ça.
C'est
on ne les guérit pas. On n'a pas la solution d'un traitement bref de quelques semaines ou quelques mois, même un peu plus longtemps, qui permettrait, quand il est fini, de dire au patient « c'est bon, c'est fini, vous n'avez plus cette maladie inflammatoire intestinale ». Ça, on ne sait pas faire. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est contrôler cette inflammation. Et les traitements les plus efficaces aujourd'hui sont ceux qui ciblent le système immunitaire, le système de défense. Donc les maladies inflammatoires sont caractérisées par une activation excessive du système de défense. En tout cas, c'est ce qu'on objective. Et donc, les traitements qui fonctionnent sont ceux qui bloquent cette inflammation, sauf un médicament dans la rectocolite qui sont la famille des 5-ASA, des aminosalicylés, qui là, lui, agit plutôt sur la paroi et qui est un traitement de première ligne qui est très efficace chez une bonne partie des patients. Mais quand ces traitements ne fonctionnent pas, on passe à des traitements qui vont diminuer l'activité du système immunitaire. Et on a fait des progrès, je pense, considérables dans les stratégies, dans le contrôle du risque. En fait, ces traitements, quand on diminue le système immunitaire, on peut favoriser des infections, par exemple. Et on a fait des gros progrès. Alors, c'est des traitements qu'il faut adapter aussi, tenir compte de la région du monde dans laquelle on traite les patients, parce qu'il n'y a pas les mêmes risques du fait des maladies infectieuses.
D'ailleurs, ces traitements ne sont pas disponibles en Afrique subsaharienne, hein, pour parler clairement. La plupart d'entre eux ne sont pas disponibles. Enfin, on a eu déjà l'occasion d'échanger avec un certain nombre de confrères gastro-entérologues, notamment pour le traitement du psoriasis, des psoriasis particulièrement graves. Et ils nous disaient, des dermatologues, non, les biothérapies ne sont pas disponibles en milieu hospitalier.
Alors, je pense que ça va évoluer, parce qu'on voit arriver des biosimilaires, c'est-à-dire des médicaments qui sont des copies des anticorps monoclonaux. Donc les prix de ces biothérapies ont considérablement baissé. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Je crois aussi qu'en Afrique subsaharienne, alors moi je manque de chiffres, mais je pense qu'on a moins de maladies sévères. Il y a un phénomène en fait qui est assez impressionnant aujourd'hui dans le monde, c'est une maladie globale dont l'incidence augmente dans quasiment, il y a quasiment pas de région épargnée, sauf peut-être l'Afrique subsaharienne. Mais encore une fois, on manque de données hein, sur est-ce que la réalité. Mais je crois, parce qu'on a observé quand même cette augmentation de l'incidence, des formes de plus en plus précoces et de plus en plus sévères. Et donc ce qu'on observe dans le monde, c'est que les régions où la maladie apparaît, il y a moins de maladies sévères. Il y a aussi un autre phénomène qui est assez impressionnant, c'est non seulement la maladie dans certaines régions augmente, mais c'est aussi la sévérité qui augmente. Et donc je pense qu'il y a aujourd'hui moins besoin de biothérapie dans certaines régions du monde que dans d'autres.
Alors Corinne Devaux, vous restez avec nous, professeur Mathieu Allais, on va reprendre cet échange dans quelques minutes pour parler bien sûr encore des traitements, de la recherche, et puis aussi peut-être de la particularité de la prise en charge de la maladie chez les enfants. Mais si vous le voulez bien, nous allons quitter le studio pour quelques instants.
Priorité santé sur RFI.
Pour rencontrer des participants du Week-end Jeune organisé par l'association François Petit, l'AFA, dont vous êtes vice-présidente, Corinne Devaux. Deux jours, 30 jeunes, ils ont entre 18 et 30 ans. Ils sont réunis pour échanger sur leur maladie, entre eux, mais aussi avec des médecins et une assistante sociale. Et pour entamer ces rencontres, les encouragements du président de l'association, Alain Olympie.
Merci d'être là, d'abord à vous. Si j'ai un message à vous faire passer, c'est de ne pas rester seul avec cette maladie. De temps en temps, ça fait du bien de pouvoir communiquer, passer un petit coup de fil avec un jeune comme vous qui est au quotidien peut-être les mêmes problèmes que vous. Le but, c'est que vous ayez la banane tout le week-end. Pour ceux qui avaient compté tirer la gueule, n'y comptez pas. Hein, il faut vraiment que vous soyez là et que vous repartiez avec d'abord un carnet d'adresses. Mais j'espère que vous allez passer un super moment, en tout cas un super bon week-end. Et je vous applaudis.
Donc moi, c'est Alexia Faure, j'ai 25 ans, je m'appelle Chrono. Depuis maintenant l'âge de 14 ans.
Et à l'époque, comment est-ce que vous avez réagi quand on vous a annoncé ce diagnostic de maladie de Crohn ?
Pendant un an, j'ai fait un gros déni, je faisais n'importe quoi. Pas le droit de manger certaines choses, mais je mangeais quand même, en cachette, voilà. Des interdits que je faisais quand même. Mais de 14 ans à 15 ans, j'ai très mal vécu, surtout qu'on a adolescence. Moi, j'avais perdu 15 kilos quand même en juin, donc quand je suis revenue en septembre, j'étais quand même très maigre encore, on me traitait de squelette, d'anorexique, enfin voilà, des choses pas faciles à entendre quand on est ado. Après, maintenant, j'ai réussi à l'accepter, mais ouais, je dirais jusqu'à l'âge de 18 ans, je ne l'ai pas vraiment accepté, quoi.
Et donc aujourd'hui, à 25 ans, quels sont les symptômes de votre maladie de Crohn ?
J'avais une iléostomie depuis le 5 février 2016. Et en fait, j'avais un bout d'intestin qui ressortait au niveau du ventre. Donc du coup, j'avais une poche pour pouvoir évacuer mes selles. Et j'ai eu ça pendant un an et 11 mois. Et là, on me l'a retiré le 12 janvier. Et depuis, enfin en tout cas pour l'instant, je suis en rémission. Je suis contente de savoir que je suis en rémission. C'est la première fois que j'entends ce mot en 10 ans, donc c'est génial, quoi. Des fois, j'ai des coups de blues parce que je me dis « j'en ai marre cette maladie », mais bon, quelque part, si on me dirait du jour au lendemain « est-ce qu'on voulait qu'on vous l'enlève ?», je dirais non, parce que maintenant, elle est en moi, donc en fait, si on l'enlèverait, je pense qu'il me manquerait cette partie-là, en fait, qui est ancrée en moi, en fait.
Globalement, il faut avoir en tête que le risque de transmission de la maladie, il n'est pas tellement différent que le risque d'avoir un enfant malade quand soi-même, on n'est pas malade. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on a une maladie inflammatoire ? Quel est l'impact sur la grossesse ? On sait qu'il y a un petit peu plus de bébés petits, un petit peu plus de prématurité, mais surtout les grosses complications, l'avortement, la mort fœtale, il y a un surrisque quand la maladie n'est pas contrôlée, c'est-à-dire quand il y a une poussée pendant la grossesse. Donc, le message vraiment de tout ça, c'est que si on arrive à bien contrôler la maladie avant et pendant la grossesse, c'est une grossesse normale.
Alors, je m'appelle Amira, j'ai 30 ans, 31 dans quelques semaines. Je souffre de rectocolite hémorragique. Les deux ateliers, enfin la gastro-entérologue ce matin et là l'atelier qu'on vient de faire avec l'assistante sociale, m'ont apporté énormément de réponses. Parce qu'en 6 ans de maladie, finalement, c'est la première fois que je rencontre des malades comme moi, que je rencontre des professionnels outre que moi, mon médecin, lors des consultations, et que vraiment, je peux en discuter. Et je me dis, mince, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, quoi. Quand on a diagnostiqué ma maladie, j'ai un petit peu été choquée. Je pense que le médecin, autant il a été bon à me diagnostiquer tout de suite, autant humainement, je trouve qu'il n'a pas été bon du tout, du tout. Il me l'a vraiment balancé dans la figure. Il m'a dit que c'était une maladie qui ne se soignait pas, une maladie à vie, et que désormais, il faudrait que je fasse un régime alimentaire, que je n'aurais plus le droit à rien sauf à manger des pâtes et du riz. J'avais 24 ans, j'approchais de mes 25, et je me voyais, pour les 60 prochaines années, manger des pâtes et du riz à tous les repas. Et j'ai vraiment été très traumatisée par ça. Donc ce médecin qui m'a presque maltraitée a fait que j'ai voulu trouver des réponses et je suis allée sur Internet. Et bien sûr, quand on tape Mickey, tout ça sur Internet, on tombe sur des forums de gens qui sont pas bien du tout, qui sont passés par la chirurgie, qui traînent cette maladie depuis des années. Et ça fait très très peur quand on a 24 ans et qu'on vient tout juste de se découvrir ça. On se dit, mais qu'est-ce qui m'attend ? Donc c'est vrai que là, limite, oui, les professionnels, ça donne espoir. La chirurgie, même si c'est quelque chose qui fait très très peur, la gastro-entérologue de ce matin m'a rassurée par rapport à cette chirurgie. Elle avait l'air de dire que 96% des personnes qui sont passées par la chirurgie, enfin voilà, ne regrettent pas et se sentent beaucoup mieux depuis, ils n'ont plus de symptômes. Donc c'est vrai que ça donne de l'espoir. Globalement, ce week-end me donne de l'espoir.
Un reportage signé Philippine Lebret. Corinne Devos, vous êtes devenue patiente experte. Quand on est atteint d'une Mickey, est-ce qu'on a parfois ou souvent l'impression que les autres ne comprennent pas ce que vous êtes en train de vivre?
Oui, je crois que c'est un point très important. C'est les Mickey, pour ma part, la maladie de Crohn, est très longtemps restée totalement invisible aux yeux de l'extérieur. On a mal, on est fatigué, on a des diarrhées, mais néanmoins, tant qu'il n'y a pas un signe extérieur comme une perte massive de poids, ça ne se voit pas. Et donc, c'est vraiment un handicap invisible qui, à un moment, pour moi, est devenu visible. Mais j'avais beaucoup de mal à l'expliquer, parce qu'à part expliquer qu'on a la diarrhée et qu'on est fatigué, la fatigue, c'est tellement subjectif et compliqué à comprendre. Moi, je ne récupérais pas. Ce que j'essayais d'expliquer, c'était que quand j'étais fatiguée, c'était un épuisement. C'est-à-dire que porter une tasse de café à ma bouche le matin était presque aussi important que si on m'avait demandé de faire le marathon de Paris. J'étais épuisée, vraiment, mais c'était assez difficile à entendre. Et je crois que ce qui m'a beaucoup aidée à un moment, c'est de pouvoir rencontrer complètement, en franchissant la porte de l'association, mais très tardivement.
On mettra à la fin de l'émission, sur le site internet, les coordonnées de l'AFA, justement, pour s'il y a des gens qui ont des questions, qui puissent aller chercher, glaner ces informations sur place. Un lieu de rencontre.
Et là, j'ai rencontré la première personne qui m'a accueillie. Elle m'a demandé comment j'allais et je lui ai dit, je suis épuisée. Et j'ai eu l'impression que quand je lui disais ce mot, elle comprenait ce que j'étais en train de lui dire.
Elle ne vous disait pas, allez vous reposer.
Exactement. Elle m'écoutait déjà et elle me disait, et comment ça se passe quand vous dites épuisé, et je lui ai donné cet exemple de la tasse de café parce que c'est un des premiers gestes pour moi le matin. Et quand j'arrive plus à le faire, ça veut dire que j'ai atteint vraiment un niveau de fatigue intense. Et je lui ai demandé si elle était malade et elle m'a dit oui. Et là, je me suis rendu compte que de parler ou de partager avec quelqu'un d'autre était vraiment intéressant. Moi, pendant tout mon parcours, je n'ai jamais rencontré un malade autre que moi-même, puisque j'étais suivie plutôt en médecine interne qu'en gastro-entérologie. Donc en plus, je ne rencontrais pas de personne avec qui je pouvais échanger au niveau de mes symptômes.
Professeur Mathieu Allais, est-ce que c'est important une prise en charge pour ceux qui le peuvent, prise en charge multidisciplinaire? Là, il y a cette dimension de rencontre. Derrière, il y a forcément une dimension psychologique, mais aussi, quand on parle de Crohn, on parle aussi de nourriture, de nutrition. On parle pour les atteintes extra-digestives de rhumatologie. Est-ce que la multidisciplinarité, ça fait quelque chose, c'est vraiment quelque chose à part entière dans la prise en charge?
Oui, ça ne fait pas entière, mais je crois que ce qui est important, c'est que le médecin soit quand même, soit à l'écoute et la capacité de faire face à des symptômes qui sont, sur le plan médical, pour un médecin, c'est très riche. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la fatigue, les causes de la fatigue sont nombreuses. Il y a quelqu'un qui a une maladie inflammatoire, si on a de l'anémie, on est fatigué. Si on a un syndrome inflammatoire, on est fatigué. Par exemple, si vous avez une infection, une grippe, vous êtes épuisé. Ça retentit aussi sur le moral. La baisse de morale peut favoriser la fatigue aussi. Le fait de venir, d'avoir fait une poussée sévère, d'avoir perdu du poids, ou même d'être psychologiquement un peu au fond du trou, fait que ça va être difficile de remonter. Donc, c'est compliqué. Et c'est vrai que notre problème en consultation médicale, enfin, je parle des médecins, là, je me remets ma casquette, c'est de trouver les mots, et puis l'aide. Alors, on a été beaucoup aidé par des gens comme Corinne, par l'association François Aupetit, par les patients experts, et parce qu'on a développé dans nos centres le concept de l'éducation thérapeutique, parce qu'il y a encore 10 ans, chacun d'entre nous, médecins, était finalement le seul intermédiaire entre le patient et sa maladie, et on s'est rendu compte qu'en multipliant les interlocuteurs, on augmentait les chances pour un malade de trouver des gens qui peuvent l'écouter. Et ce qui est assez fascinant, Corinne ne va pas le dire elle-même, mais moi c'est quelque chose qui me... Je voudrais me rendre hommage à cet aspect-là. Ce qui est assez fascinant avec les patients experts, c'est qu'ils ne parlent pas de leur maladie aux patients, mais ils ont une écoute, c'est ce que tu viens de raconter, une écoute, une façon d'écouter. Alors, je pense que les médecins, les infirmières, les soignants peuvent apprendre un peu à écouter de cette façon-là. C'est-à-dire que ne pas être dans le jugement, dans l'interprétation immédiate, ne pas trouver l'explication tout de suite, mais écouter. Écouter et puis ensuite essayer de trouver des solutions. Le problème, c'est que les consultations médicales, elles ont un temps limité. Et donc, l'intérêt d'une prise en charge pluridisciplinaire, on a réussi à intégrer une psychologue dans notre équipe, on a la diététicienne, on a effectivement une interaction avec les autres spécialités, on a un réseau. Et ceci est important pour les gens qui ont des maladies non contrôlées et sévères. Hein, parce que c'est un des aspects dont je voudrais faire part, c'est que Corinne DeVos a raconté son parcours, qui est un parcours très difficile. Heureusement, beaucoup de patients ne vivent pas une maladie aussi sévère.
Il y a des manifestations très différentes.
On a un spectre très différent, donc il faut absolument éviter que les gens soient catalogués dans un « Ah, il a une maladie sévère, c'est le handicap, etc. » Non,
ça dépend
c'est stigmatisant. Oui, c'est très important. Ça dépend des gens, et puis encore une fois, même dans les parties sévères, c'est le témoignage qui nous a été donné, c'est qu'on arrive à contrôler la situation. On arrive à réduire cette inflammation.
Vous restez avec nous, on va tout de suite partir pour le Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Où l'on retrouve le professeur Christian Dzeton, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital général de Douala, président de la société camerounaise de gastro-entérologie. Est-ce que ces maladies inflammatoires, professeur Dzeton, sont connues au Cameroun ?
Oui, elles sont bien connues, mais en réalité, nous avons très peu de cas. Parce que moi, par exemple, depuis que je suis rentré il y a plusieurs années, je n'ai qu'une douzaine de cas. Et donc, la plupart du temps, nous voyons plutôt des rectocolites hémorragiques et très peu de Crohn.
Quand vous dites que ces maladies sont connues, elles sont connues des médecins, des gastro-entérologues, ou même de la population, s'il y a peu de cas, les gens ne doivent pas vraiment les connaître?
Non, les gens ne les connaissent pas, c'est les gastro-entérologues. Et nous espérons que, comme c'est une maladie pratiquement universelle, le fait de l'avoir inclus dans nos programmes de faculté de médecine est intéressant pour que nos étudiants le sachent. Mais la population ne connaît pas du tout, et en réalité, même beaucoup de médecins généralistes ne le savent pas. C'est pour ça que tous les malades que nous découvrons ont longuement eu des traitements anti-amibiens, anti-parasitaires, autres, devant ces diarrhées chroniques sanglantes. Et donc, c'est à la longue que nous pensons que c'est une rectocolite hémorragique dans la plupart des cas, comme je vous ai dit. Et là encore, on a des problèmes au niveau du diagnostic définitif, parce que l'anatomopathologie, sur laquelle nous comptons en dernier recours, puisque il faut absolument cela, souvent nous fait traîner parce qu'ils nous répondent que c'est des colites non spécifiques, etc. Et dans la plupart des cas, je pense que c'est l'envoi dans un centre français qui nous apporte le diagnostic.
Parce que le niveau de spécialisation des laboratoires n'est pas suffisant pour arriver à au diagnostic très pointu sur ces maladies précises, professeur Dzeton ?
Absolument, c'est cela. Parce que je pense qu'il y a des efforts à faire là-dessus. Je pense que la plupart des gastro-entérologues en Afrique vont le souligner. Il faut absolument que nos anatomopathologistes travaillent davantage pour perfectionner les diagnostics pointus. Il n'y a pas que dans la rectocolite hémorragique, il y a aussi dans beaucoup d'autres domaines, mais dans ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est cela. Donc les cas de Crohn sont relativement rares. Alors bien sûr, dans notre pays, le diagnostic peut aussi traîner parce que on est dans un contexte de pandémie du VIH qui fait que beaucoup de ces diarrhées sont en rapport avec cela. Donc quand on a éliminé ce diagnostic, il faut éliminer toutes les parasitoses, etc. Et comme je vous dis, dans la plupart des cas, c'est la biopsie qui nous fera faire ce diagnostic. Et à ce moment-là, les quelques rares médicaments que nous avons à notre disposition ici, dès qu'on les instaure, ça va beaucoup mieux. Nous avons surtout les aminosalicylés, notamment la mésalanine ici. Les anti-TNF, nous n'avons pas. Mais ça répond assez bien à nos malades parce que nous avons des rémissions relativement rapides et souvent nous perdons ces malades de vue. Je pense que beaucoup sont en rémission définitive. Alors comme disait le confrère tout à l'heure, nous n'avons pas souvent des formes graves. La plupart du temps, ce sont des formes pas sévères, mais qui sont suffisamment ennuyeuses, dérangeantes pour le malade, parce que de temps en temps, il y a même une altération de l'état général. Et là, C'est comme un miracle. Dès qu'on les met sous traitement spécifique, ils vont beaucoup mieux, etc. Et voilà.
Et ils vous disent merci, et c'est ce qu'on vous dit aussi. Merci infiniment, professeur Christian Dzeton.
Absolument, parce que vu le long chemin qu'ils ont parcouru, d'abord chez les guérisseurs, comme d'habitude, mais aussi chez les généralistes et des gens qui n'ont pas eu d'idée que ça puisse être une Mickey,
vous les soulagez.
Ils semblent sortis de... Voilà, exactement. Et donc, voilà. Nous avons d'ailleurs entrepris, il n'y a pas longtemps, des travaux avec des équipes belges qui essayaient de voir, par rapport à ces maladies, chez certains malades, s'il y a un rapport avec l'amibiase, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une relation quelconque. Ça n'a pas donné de réponse et nous avons abandonné cela. Mais plus récemment, nous avons entrepris une étude statistique avec des amis de l'hôpital américain de Neuilly par rapport à colliger quelques cas de Mickey en Afrique subsaharienne. Bon, le recrutement est assez pénible, c'est assez lent. Et donc, je pense qu'on va réussir à prouver que c'est quand même quelque chose de rare en Afrique. Dans
certains pays, si vous avez des résultats, on reprendra contact avec nous. Merci avec vous. Merci beaucoup, professeur Christian Dzeton, président de la Société camerounaise de gastro-entérologie. Il nous reste 2 minutes à peine. J'aimerais avec vous, professeur Mathieu Allais, qu'on parle nourriture, nutrition, parce que tout ce qui touche le tube digestif, forcément, on y pense. Et certaines personnes... et si vous allez nous dire que ce n'est pas la bonne solution, se mettre au long terme sous un régime strict, et c'est ce qu'il ne faut pas faire.
Oui, donc les régimes sont conseillés dans les périodes où il y a des symptômes, des douleurs abdominales liées à un rétrécissement de l'intestin. Il faut éviter les fibres, les résidus qui vont s'impacter. On peut avoir un bénéfice à diminuer à nouveau les résidus lorsqu'il y a une diarrhée importante. Mais ce n'est finalement pas la solution. La solution est de contrôler cette inflammation. Et une fois que l'inflammation est contrôlée, qu'on a contrôlé les symptômes, ce qui est essentiel finalement, c'est de restaurer une alimentation de bonne qualité. Et il y a un point, si je peux me permettre, j'aimerais juste faire un commentaire sur ce que vient de dire le professeur Dzeton, parce que il dit, on n'a que quelques cas de rectocolite hémorragique. En fait, c'est ce qu'on observe dans le monde entier. Il y a d'abord une augmentation de la rectocolite hémorragique qui précède d'environ 10 ans l'apparition de la maladie de Crohn. Et donc ça rejoint... si vous voulez, donc c'est des maladies génétiques favorisées par des facteurs environnementaux. En fait, on sait très bien que les gens qui sont d'origine africaine, qui viennent en Europe ou en Occident, ont un risque de maladies inflammatoires intestinales. Donc, finalement, la cause est dans l'environnement, même si c'est des maladies génétiques, c'est une maladie génétique et environnementale. Et l'alimentation est clé, et la qualité de l'alimentation. Et donc, je pense qu'il faut avoir une réflexion sur cette qualité de l'alimentation et ce qui est probable, c'est que c'est l'industrialisation de l'alimentation qui est à l'origine de l'augmentation des maladies inflammatoires intestinales. Je prends ce risque de le dire de cette façon-là, mais je crois que c'est important. C'est-à-dire que la malbouffe est une épidémie mondiale, et donc c'est peut-être ce qui protège encore l'Afrique subsaharienne, je le crois, et c'est une réflexion à avoir sur la qualité de l'alimentation et sur une alimentation locale de qualité.
Merci beaucoup. Notre échange touche donc à sa fin. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de Priorité Santé pour nous parler de ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. On aura encore beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur les traitements, sur la recherche qui avance. Merci à vous, Corinne DeVos, patiente experte, vice-présidente de l'AFA, l'Association Nationale de Maladies et Proches, pour vaincre ces deux Mickey. Et puis à vous, professeur Mathieu Allais, professeur en hépato-gastro-entérologie, gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. C'est le moment de retrouver Stéphane Besançon. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Aujourd'hui, on va parler des vitamines, précisément de l'une d'entre elles, la vitamine A. Quels sont les risques lorsque l'on manque de vitamine A? Et on commence par le commencement. Qu'est-ce que c'est précisément la vitamine A?
Alors, les vitamines, c'est des micronutriments qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps et qui, à part la vitamine D, ne sont pas synthétisés par l'organisme. Donc, c'est très important de les apporter par l'alimentation. Et la vitamine A fait partie de la famille des vitamines liposolubles, c'est-à-dire qui vont être solubles dans les graisses, on va dire, et qui, si on n'en apporte pas assez, vont de manière chronique à entraîner des carences qui, elles, vont avoir des conséquences très importantes sur notre organisme, qui peuvent aboutir au pire du pire, à la cécité, c'est-à-dire devenir aveugle.
Alors, à quoi sert la vitamine A dans notre organisme et où est-ce qu'on la trouve?
Alors, la vitamine A, elle a un rôle central dans notre organisme, déjà pour la vision. Elle est présente dans les bâtonnets qui sont situés à l'arrière de la rétine sous forme de rétinal. Elle va permettre à ce niveau, par des mécanismes assez complexes, l'adaptation de notre vision quand on est exposé à une lumière de faible intensité. Les cônes de la rétine également contiennent des pigments composés du rétinal, c'est dérivé de la vitamine A, qui vont permettre la perception des couleurs. Donc là, on a vraiment un rôle central de cette vitamine sur la vision. Elle va participer aussi à la multiplication des cellules qui vont former le tissu épithélial qui protège entre autres la surface externe de notre corps. Et enfin, elle joue un rôle très important au niveau de notre système immunitaire, donc notre défense contre toutes les choses qui veulent agresser notre organisme, mais aussi comme antioxydant qui va permettre d'empêcher des substances nocives, notamment ce qu'on appelle les radicaux libres, d'attaquer là aussi les cellules. Alors, on retrouve des précurseurs de la vitamine A qui vont permettre la production de cette vitamine A dans différentes familles d'aliments, comme par exemple les fruits jaunes et orangés, mais aussi dans les légumes verts foncés. Et on l'oublie très souvent, mais il y a deux formes pour nos auditeurs qui sont en Afrique, d'huile de palme. Il y a l'huile de palme blanche qui va être raffinée, qui elle ne contient plus ses précurseurs. Par contre, il y a l'huile rouge, qui est l'huile brute, on va dire, qui est très utilisée encore et qui contient une quantité très intéressante de précurseurs de la vitamine A, ce qui fait qu'une cuillère à café d'huile de palme rouge suffit à combler les besoins quotidiens en vitamine A du jeune enfant, par exemple. Ça, c'est très important à savoir.
Alors, quand on manque de cette vitamine, quels sont justement ces risques de carence en vitamine A?
Alors, il faut rappeler qu'il faut un apport normalement qui est entre 700 et 900 microgrammes de vitamine A par jour, et que si cet apport est insuffisant de manière chronique, la carence va démarrer d'abord par toucher la vision, d'abord une baisse de la vision nocturne, et en s'aggravant, peut conduire à la cécité, c'est-à-dire à devenir aveugle. Mais comme on l'a vu qu'elle a un rôle important aussi dans le système immunitaire, on va aussi avoir une baisse de système immunitaire, donc plus de possibles maladies. Et enfin, elle va avoir, comme beaucoup de vitamines et minéraux, aussi une possible retard de croissance chez les enfants. Et il faut bien rappeler aussi que cette carence en vitamine A, c'est quelque chose, il y a des fois certaines carences en vitamine qui sont un peu des petits chiffres épidémiologiques, mais là on est sur quelque chose de très très important, puisque c'est plus de 15 millions d'enfants et de femmes qui présentent une cécité nocturne à cause de cette carence. C'est une des carences les plus importantes dans beaucoup de pays au monde, avec des conséquences très graves.
Alors, quelles sont les recommandations que vous pouvez donner à nos auditeurs?
Alors, déjà, pour comme souvent quand on parle de vitamines et minéraux, pour les tout petits, l'allaitement maternel, à condition bien sûr que la maman elle-même ne soit pas carencée, qu'elle ait une alimentation équilibrée, parce qu'autrement on va propager la carence. Et après ça, il faut introduire des aliments riches en vitamine A, comme le foie, les œufs ou encore des fruits et des légumes. Et si on est dans une zone où la diversification est difficile, certaines zones du Sahel par exemple, c'est pas toujours facile, c'est là où il faut utiliser cette fameuse cuillère à café d'huile de palme rouge qu'on peut rajouter dans la sauce, qui va permettre de combler. Et pour les adultes, là on va revenir aux recommandations qu'on fait tout le temps, très classiques. Il faut absolument équilibrer et diversifier. C'est à partir d'une alimentation équilibrée qu'on pourra être sûr, en amenant tous les aliments, de combler tous les besoins nécessaires en vitamine A.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à l'équipe qui chaque jour fabrique et prépare votre émission. C'est tout à maquer. Ophélie Lassène, Didier Bleu demain. Émission spéciale dermatologie sur la santé des peaux noires, présentée par Sandrine Mercier. Vos questions, vos témoignages, on vous attend au 33 80 82 75 75. Et pour écouter cette émission en podcast sur notre application Pure Radio, aussi notre site internet rfi.fr, la rubrique émission.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. RFI.